Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
Micro.
Je l'ai mis.
Eh ben alors, bonsoir, c'est La Causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et oui, alors on a un petit souci technique et Jean-Yves qui est à la technique a du mal à vous parler. Donc je vais prendre le relais et faire le lancement. Eh ben non, ça ne marche pas plus. Donc il doit y avoir un mute quelque part qui doit être enclenché. Et donc du coup, je vais vous faire la présentation. Donc si tu veux nous écrire, c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Et si tu veux nous retrouver, c'est sur les blogs de Radio Canu à blogs.radiocanu.org/lacauserie, blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, tu nous retrouves sur tous les podcasts qui existent, balado-diffusion, comme dirait Jean-Yves. Alors, tu tapes La Causerie Canu et tu devrais nous trouver. Et sinon, moi, je vais continuer à blablater parce que Jean-Yves, il ne trouve pas pourquoi le micro de la technique ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas mieux, on ne t'entend toujours pas. Prends peut-être l'autre. Voilà. Et sinon, tout ça pour vous dire que on a envoyé des autocollants à
Antoine,
qui nous les avait demandés. Donc, si tu veux des autocollants, pareil, à lacauseriecanu@gmail.com. Et on a aussi répondu à quelques personnes qui nous ont écrit pour des festivals ou des associations. Et on espère pouvoir en recevoir dans l'émission dans les semaines qui viennent.
Est-ce que là, on m'entend ?
On t'entend.
Oui, c'est super.
C'est fabuleux.
Ok. Très bien. Bonsoir. Bonsoir, Fab.
Bonsoir,
Jean-Louis. Tu as déjà rappelé toutes les manières de nous joindre.
Bah oui, j'ai meublé pendant que le micro ne marchait pas.
Mais c'est très bien.
Donc,
effectivement,
voilà.
C'est très étrange. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va faire avec. Eh bien, donc causerie. Et c'est Fab qui commence à nous causer, qui va nous donner des nouvelles venant d'Iran.
Ouais, on avait envie d'ailleurs dans La Causerie de revenir sur ce qui se passe en Iran. Alors, comme on le répète souvent dans l'émission, la révolution démarrée fin 2022 en Iran est loin d'être terminée. Et si elle a changé de forme, elle continue. Et penser que le régime aurait cédé de l'espace est une grave erreur. Après une légère accalmie, et encore faut le dire vite, quand je parle d'accalmie, voilà, la répression repart et prend des formes cyniques et violentes. Et je vais ce soir en fait vous parler de quelques faits qui ne doivent pas éclipser que des milliers d'autres violences et répressions ont lieu en ce moment même en Iran. Mais c'est des faits qui permettent de mettre en lumière le climat qu'il y a actuellement sur le territoire iranien. Donc on va commencer par la mort d'un réalisateur, de Darius Merjoui, et de son épouse, la scénariste Vaideh Mohammadifar. Et donc ils ont été assassinés à l'arme blanche le 18 octobre de chez eux, devant leur télévision. Donc voilà. Selon l'enquête policière menée par la police du régime, ce serait le jardinier qui les aurait tués pour une question d'argent. Oui, ça sonne un petit peu comme un cluedo. Mais voilà. Enfin, le jardinier et trois autres personnes, parce qu'on a quand même vu sur la vidéo qui a surveillance qu'ils étaient quatre. Mais bon, mais la police en a trouvé un a priori, et ça tombe bien, c'est le jardinier. Enfin, ça tombe bien pour eux. Voilà. Mais donc c'est le seul qui a été arrêté. Alors, beaucoup de militantes et de militants voient dans ce meurtre la marque de la police secrète, hein, qui avait utilisé en fait le même type de stratagème pour liquider des intellectuels et des militants dans les années 80. On va se rappeler, je crois que c'est 86 ou 88, où il y avait eu une vague d'assassinats. Voilà, et c'était systématiquement des proches des victimes. Donc c'était le jardinier, c'était un homme qui passait dans la rue, c'était un mendiant. Enfin, il y avait toujours des choses comme ça qui tombaient bien, on va dire ça. Et ce qui semble aller dans le sens de ce que disent ces militantes et militants, c'est que lors de l'enterrement du cinéaste, il y a eu plusieurs actrices et acteurs qui ont été arrêtés par la police, alors pour contrôle de moralité. Alors là, ils n'ont pas été arrêtés pendant l'enterrement, mais juste après, c'est-à-dire au moment où ils repartaient. Donc on voit bien qu'il y avait là une envie de se servir de la mort du père de la nouvelle vague iranienne, hein, parce que le réalisateur en question, Dariu Merjoui, était un des pères du renouveau du cinéma iranien. Et donc l'idée, c'était aussi quand même de faire sortir de leur lieu de vie quelques personnes célèbres et ciblées de façon à pouvoir les capter, comme dirait la police.
Ah bah c'est une bonne manière de pouvoir voir et contrôler, voir enfermer des opposants,
donc
des proches.
Ça démontre quand même que les méthodes du régime sont très loin d'avoir changé, hein, globalement, vu que pour les militantes et militants, on retrouve bien là quelque chose qu'applique très régulièrement le régime d'Hezbollah iranien. Donc il y a une nouvelle lycéenne qui est morte, hein, malheureusement, la jeune lycéenne Armita Garawand est morte dans des circonstances peu claires, comme ce fut le cas de Mahsa Amini. Hein, donc voilà. Comme le souligne le journal Nice Matin, je vais reprendre leur terme, je trouvais que l'écrit était très bien, dans un article d'il y a à peu près une semaine. Donc cette lycéenne, originaire d'une région kurde, est décédée après un mois de coma. Plusieurs ONG affirment qu'elle a été grièvement blessée après avoir été agressée dans le métro par la police des mœurs, chargée de faire appliquer l'obligation pour les femmes de porter le voile en public. Les autorités démentent et évoquent un malaise. Voilà. Alors si ça vous rappelle quelque chose, c'est exactement la même configuration pour Mahsa Amini il y a un peu plus d'un an, ce qui a lancé la révolution iranienne. Donc voilà, donc on retombe sur le même mensonge, hein, de la part du régime.
Mais là, à l'inverse, le régime l'a joué vraiment hyper clairement. C'est-à-dire qu'il a montré des images du métro,
ouais.
On la voit rentrer.
Ben, elle va pas sortir.
5 minutes après, on voit ses amis la traîner hors du métro, inconsciente.
Par contre, étrangement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'excuse de dire la caméra à l'intérieur du wagon était en panne.
Ça c'est
chose qui arrive.
Toujours pareil, c'est comme les caméras des policiers qui fonctionnent pas.
Ça marche aussi.
C'est le hasard.
Donc on peut s'empêcher quand même de faire le parallèle avec les faits, les excuses données, hein, par le régime des Mollahs il y a un peu plus d'un an, hein, donc qui mirent un coup de départ à cette révolution. Alors on va le dire, hein, la révolution elle est pas née uniquement du décès de Mahsa Amini, mais Mahsa Amini c'était la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà très très plein et qui a mis une jeunesse dans la rue. Et donc la révolution est toujours en cours, hein, je le redis. Hein. Mais le cynisme il s'arrête pas là, hein, parce que pourquoi s'arrêter là ? Lors de son enterrement, le régime en a profité pour arrêter l'avocate et militante Nasrin Sotoudeh. Donc c'est militante pour le droit et en particulier le droit des femmes. Elle a donc été exfiltrée pendant l'enterrement, c'est-à-dire que là ils n'ont pas attendu la fin, pour être emmenée en prison. Enfin, plus précisément, à la prison, enfin, le centre de remise à niveau coranique, enfin, le centre de soins psychiatriques de l'hystérie. Enfin, en gros, la prison pour femmes de Kouarchak, okay. Qui est une des prisons les pires d'Iran. Voilà, toutes les ONG, toutes les militantes, tous les militants le disent. C'est un vrai lieu de torture permanente et c'est vraiment, vraiment ce que c'est. Il y a une notoriété publique que cette prison est en fait un centre de redressement, hein, parce que c'est comme ça, c'est pour que les femmes qui refusent d'être trop soumises le redeviennent, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, hein. Les Mollahs, ils n'aiment pas trop les femmes pas soumises.
Oui, c'est comme les camps en Chine où les
Ouïghours
ont été enfermés.
C'est de leur rééducation, quoi, voilà.
C'est ça.
Où est donc pratiqué, alors ça a été documenté, hein, par des militantes, mais aussi des ONG, de la torture psychologique et physique, des viols, et où on fait aussi des soins médicaux forcés, comme les électrochocs, j'en avais parlé d'ailleurs dans l'émission, voilà, où on voit que c'est un centre de torture à... Il n'y a pas d'autre mot, quoi, voilà. Mais comme si cela ne suffisait pas, cette militante n'a pas été la seule à être arrêtée et battue, hein. Parce qu'en ce moment, toutes les personnes qui sont arrêtées, elles sont battues par la police, hein, systématiquement. Voilà, maintenant quand vous lisez arrestation en Iran, vous savez qu'il y a eu des coups et blessures. Voilà, vous le savez, parce que c'est devenu une norme. Donc selon certaines ONG et réseaux militants, c'est au moins 50 personnes, hein, qui ont été arrêtées pendant cet enterrement pour trouble à l'ordre public, officiellement. Voilà.
Donc, oui, c'est-à-dire juste leur présence est déjà un trouble, quoi.
Bah, ils viennent enterrer une jeune fille, une jeune femme, pardon, et bah, ils troublent l'ordre public parce qu'ils apportent du soutien à la famille et tout ça. Voilà. Alors, il faut savoir que le régime des mollahs, il a compris hein, que les enterrements servaient aussi maintenant à revendiquer, parce que les gens qui sont enterrés étant souvent des militantes et des militants, et bah, du coup, les gens qui viennent à l'enterrement portent le combat des personnes qui sont enterrées. Mais, on va être très clair, c'est quand même assez hallucinant d'imaginer qu'on puisse arrêter et tabasser plus de 50 personnes dans un enterrement. Voilà, si vous transcrivez ça ailleurs, ça vous surprend quand même.
Et en même temps, je me demande jusqu'à quel point aussi c'est pas parlant de l'état du régime. Alors après, c'est des spéculations que je peux faire, hein, mais enfin, est-ce que justement cette intensification, etc., est-ce que c'est pas aussi une démonstration que finalement
ils sont aux abois.
Ouais,
Après. Non, mais j'ai parlé après justement d'autres techniques du régime en ce moment iranien, mais ils sont aux abois. C'est très clair que la révolution, ils pensaient l'étouffer en 15 jours. Ça fait plus d'un an qu'elle perdure, oui, sous des formes différentes, parce qu'effectivement, bah, les gens ont dû changer de méthode. C'est-à-dire que bah, la manifestation en pleine rue, quand on vous tire à balles réelles dessus, bah, c'est plus compliqué, donc vous faites autrement. Donc les méthodes ont changé. Les façons de faire aussi ont changé, mais le courant révolutionnaire, l'envie de révolution est toujours là. Et on va le rappeler, hein, la révolution iranienne, elle n'est pas de type comme certains ils l'imaginent, on va transformer 100%. Non, ils voudraient juste la laïcité. Par exemple, ils disent le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de porter ou pas le foulard.
Vous voyez, par exemple, c'est en fait une société du choix.
Ouais, c'est ça. Ils aimeraient sortir d'une société de l'imposer. Donc, on parle même pas, entre guillemets, d'une révolution comme certains en ont peur. Vous savez, les États-Unis, par exemple, qui à une époque, sous Trump, les conseillers de Trump avaient dit oulala, mais attention, c'est une révolution rouge. Non, on n'en est pas là. Et d'ailleurs, on s'en fout un peu. C'est leur révolution, ils l'amènent un peu comme ils veulent, mais on voit bien que la répression, elle est juste hallucinante. Alors pour ceux qui d'ailleurs en ce moment vendent sur les plateaux de télé, radio ou autres que le régime iranien aurait changé d'attitude, je l'ai entendu il n'y a pas très très longtemps.
Hein. Ah ouais.
Oui. Je ne voudrais pas citer Pascal Boniface, mais en tout cas c'était lui. Il me rappelle quand même ceux qui nous expliquaient à une autre époque. C'était à peu près le même d'ailleurs, que Poutine était un mec sympa qui ne ferait jamais une guerre ouverte, vous voyez. Donc on sent quand même que c'est des gens qui ils ont ah, ils ont du nez, hein, enfin voilà.
Ou alors du parti pris, quoi. Ça, c'est toujours,
Oui, bah ça, voilà. Donc, alors, bah justement, tu parlais du régime iranien et de son côté un peu paniqué en ce moment. Et en fait, quand un régime panique, il va vous créer un ennemi intérieur et extérieur, parce que c'est un petit peu le truc de tout régime qui panique. Voilà. Donc, bien entendu, hein, depuis le début de la révolution, est brandi par le régime le risque d'un ennemi intérieur financé par l'extérieur. Alors, il y a eu le choix, parce que selon quel ministre iranien parlait, c'était soit les USA, soit Israël, soit l'Arabie Saoudite à une époque, mais maintenant ils ont fait la paix à peu près, donc c'est plus trop le cas. Des fois c'était l'Arabie Saoudite et Israël, des fois c'était des USA et Israël. Bon bref, en gros, il y en a d'extérieur qui veulent du mal à l'intérieur. Voilà. Ouais. Donc ils seraient à l'œuvre pour déstabiliser le pays et casser la révolution islamiste. Voilà. Ça on a l'habitude. Hein, dans tous les régimes autoritaires, on vous crée un ennemi comme ça et puis on vous dit c'est financé par les autres. Hein, comme ça c'est plus pratique. C'est presque cocasse d'ailleurs de voir un régime qui appuie les pires ordures pour servir ses desseins et qui les finance d'ailleurs à droite à gauche. Se servir de cela en interne pour dire voilà. Bon. Ah, parce que oui, hein, ce qui se passe en ce moment entre Israël et le Hamas, cette guerre ouverte et sans limite, arrange bien le régime iranien. Ce n'est pas pour rien que l'Iran est le principal allié et financeur, aux côtés du Qatar, du Hamas. Voilà. Alors ça, s'il y a des gens qui ne me croient pas, c'est documenté. Hein. Donc vous allez sur plein de sites qui font de la vraie bonne recherche journalistique et vous verrez que c'est totalement documenté et que c'est pas du tout pipoté. Voilà. On sait aujourd'hui de façon certaine que les armes, missiles et roquettes du Hamas sont largement iraniennes. Donc voilà. Il en va de même avec le Hezbollah libanais. Ces deux organisations sont avant tout le bras armé des intérêts iraniens, en plus d'être des millénaristes d'extrême droite rêvant d'un califat historique qui couvrait toute la région. Voilà.
Même si après, entre le Hezbollah et le Hamas, y a pas une... ils sont les deux sunnites ou chiites.
Je ne sais plus, mais je sais qu'il y a une toute petite différence fait qu'ils ne s'entendent pas toujours.
Ouais,
mais
parce que ça, après, c'est aussi un des angles morts souvent qu'on a ici, c'est de ne pas voir aussi la géopolitique
les fractions
en fait, locale. En fait. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de croire que les États-Unis et l'Europe ou je ne sais pas quoi sont le centre du monde. Finalement, c'est aussi à un moment donné regarder les influences, les positions de pouvoir. Et il y en a certains qui, effectivement, ont des soifs de pouvoir. voir aussi
de et de l'influence
côté, et de l'influence aussi de ce côté du globe en fait quoi.
Et d'ailleurs on sent d'ailleurs dans le jeu de l'Iran au travers du Hezbollah qui j'y vais pas, je fais la guerre, je la fais pas, vous voyez, met toute son envie de peser dans la région hein, et d'avoir voix au chapitre. Parce que ce qu'il y a là derrière, c'est ça en fait, c'est le positionnement de l'Iran dans cette région et à ce moment-là. Alors c'est cynique, hein, cela se fait clairement sur le dos de la cause palestinienne, dont les mollahs n'en ont strictement rien à faire. Hein. D'ailleurs, pas plus que le chef du Hamas ou du Hezbollah, c'est pas vraiment ça qui les motive, même si ça sert de joli enduit, parce que c'est très... Faut toujours sortir un enduit sympa. Voilà. Mais ils s'en foutent. Hein. Bah, on va se parler franchement, ils en ont rien à carrer. Mais alors, vraiment. Voilà, je le dis parce que je commence à entendre des gens qui disent oui, mais quand même. Ah bah non. Je vous assure, vous lisez les textes des deux organisations, vous regardez ce que tous les mollahs ont dit depuis des années sur la Palestine, à part servir de cosmétique, ils en ont vraiment rien à faire. Voilà, on va être très clair. Et le régime, donc du coup, instrumentalise d'ailleurs tout cela avec malice. Ah oui, en voyant dans la rue ses partisans dans des centaines de rassemblements pour faire croire que la révolution est passée. Bah oui, parce que maintenant, c'est aujourd'hui le peuple iranien, il serait focalisé dans une lutte contre les USA et Israël. Bah oui, parce qu'évidemment, hein, voilà, c'est pas habile ça, hein, c'est pas mal, hein. Oui.
Jamais, comment dire, jamais minimiser l'intelligence entre guillemets. De nos ennemis.
En fait. Bah oui, ça c'est clair. Donc en fait, très clairement, il y a plein de militantes et militants de la révolution iranienne, la révolution, je vais dire celle d'aujourd'hui, hein, pas la révolution islamique, la vraie révolution, je vais dire, à vrai dire, qui disent non, mais il y a beaucoup de pipotés là-dedans et on va se calmer tout de suite. Les mollahs, d'ailleurs ils le disent, les mollahs ne valent pas mieux que n'importe quel chef autocratique, militaire ou autre dans le monde. Voilà, donc ils sont très clairs sur leur positionnement. Et comme les prisons du pays déborde, hein, en Iran, même les prisons secrètes, c'est que le régime a été obligé d'admettre que ces prisons secrètes, qui donc sont censées pas exister, avaient trop de monde. Donc c'est on tombe dans un truc fou.
En même temps, faut le rappeler, depuis les un an et demi de la révolution qui a commencé avec le meurtre de Macha Amini, c'est des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'arrestations.
Il y a une ONG internationale qui est issue de la diaspora iranienne, donc après, il faut toujours prendre les chiffres avec des pincettes. Qui parle de 2000 arrestations par semaine. Alors arrestation ne veut pas dire que vous finissez votre vie en prison, mais ça veut dire que vous êtes arrêté, voilà. Ça paraît plausible, voilà, mais bon, si on est sur ce rythme-là, ça fait beaucoup de monde quand même, hein, voilà. Et donc il y a beaucoup de militants et d'ONG qui l'affirment, aujourd'hui, il n'y a plus de distinguo fait entre hommes et femmes dans la violence prodiguée par le régime, et ça, ça démontre aussi le fait que le régime est en roue libre et commence à complètement paniquer, hein, parce que comme tout régime autoritaire qui panique, je le redis, ils font n'importe quoi.
Et donc, j'ai presque envie de dire comme tout régime, quoi.
Ouais. Alors après, la différence, c'est le degré de violence envers son peuple.
Ça, on est d'accord. Ça, on est complètement d'accord.
Mais c'est vrai qu'après, il y a de la panique. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a un degré de violence envers le peuple iranien qui est juste surréaliste, quoi. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'un régime en perte de vitesse a tendance à partir dans tous les sens. Donc, un prix Nobel, hein, dans ce moment-là, a été nommé cette année, hein, si vous n'avez pas suivi. Et, c'est une prix Nobel et, elle a pas de soins. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Narges Mohammadi, hein, a été faite lauréate du Nobel de la paix en 2023 pour soutenir, selon le comité Nobel, la lutte des femmes iraniennes pour la liberté.
Non, pardon, mais j'ai cru compris que tu as dit L'Oréal. C'est lauréate?
Lauréate, oui, pardon. Ouais. J'ai dit lauréate.
Je crois pas.
Oh, pardon, c'était lauréate. Autant pour moi. Donc, oui, effectivement, lauréate du prix Nobel. Le symbole vaut ce qu'il vaut, hein, mais ça n'a malheureusement pas aidé la principale intéressée. Mais comme elle l'a fait savoir, ça n'a pas non plus rendu plus dangereux sa vie, qui était déjà, selon ses dires, en suspens. Hein. Donc, elle dit, allez pas, parce qu'elle a eu vent, pour vous dire pourquoi, c'est via sa famille, et notamment les gens de sa famille, ont eu vent, en fait, de gens qui critiquaient en disant ça va la mettre en danger. Et en fait, elle a juste dit, non, là, ça va, c'est pas ça qui va rajouter. Voilà. Bon. Alors, on apprend le 3 novembre 2023 qu'elle est privée de soins en détention. Alors, pourquoi? La raison évoquée par le régime, Narges Mohammadi, condamnée à 31 ans de prison et 154 coups de fouet, donc c'est pour ça qu'elle se permet de dire que ça va pas changer grand chose, voilà, refuse de porter le voile et donc ne mérite pas d'être soignée de ce fait. Parce qu'elle refuse de porter le voile. Ouais, vous rêvez pas, hein, on en est là quand même, c'est quand même assez hallucinant. Alors, en fait, c'est son transfert vers l'hôpital pour des soins cardiaques de la militante et journaliste qui est bloquée, car elle refuserait de porter le voile, ce qui mettrait dans une position périlleuse ses accompagnateurs. Voilà, ah, okay. Ouais, voilà, et relèverait de l'insulte à Dieu. Ouais, Voilà, hein, donc le sous-entendu est quand même qu'elle risque d'être recondamnée, hein, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Donc elle a déjà 31 ans de prison, hein, les 154 coups de fouet. Voilà, donc la famille de Narges Mohammadi l'affirme. Elle est prête à risquer sa vie en ne portant pas le hijab forcé, même pour un traitement médical. Oui, car cette figure du mouvement Femme, Vie, Liberté refuse de se soumettre, refuse qu'on lui dicte ce qu'elle doit porter ou non. Elle ne veut pas trahir ses idées, même face à la maladie. Et à mes yeux, c'est clairement admirable, même si ça demande une force et un état d'esprit que je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir sur cette planète. Mais elle ne s'arrête pas là, cette militante. Le 1er novembre, elle avait réussi à faire passer un message en cachette depuis sa cellule. Oui, parce qu'elle est militante un jour, militante toujours, j'ai l'impression. Que... voilà. Ce message a été lu par sa fille et publié sur Instagram. Donc, Narges Mohammadi y exprime sa gratitude la plus sincère au comité l'ayant nobélisé et pointé du doigt le hijab obligatoire comme la source principale de contrôle et de répression dans la société, dans la société visant à maintenir et à perpétuer un gouvernement religieux autoritaire. Oui, donc, vous l'aurez compris, elle désarme pas. Voilà. Et moi, je trouve ça juste, admirable, je sais pas quel mot autre je peux employer. Voilà, c'est le genre d'exemple qui me fait me poser la question à sa place, qu'est-ce que je ferais, et en même temps, comme l'a dit sa fille, mieux vaut ne jamais être à sa place, ouais. Donc profitons de ne pas y être. Ouais. Et elle a raison aussi de se dire, ouais. C'est marche dans l'autre sens en fait, voilà. Donc, ne pas oublier l'Iran, hein. Voilà donc quelques nouvelles sur ce qui se passe en ce moment en Iran. Il était important, hein, pour la causerie de revenir sur cela. On essaye régulièrement de revenir sur les sujets qu'on a déjà abordés, surtout quand les révolutions sont pas terminées. Ouais. L'actualité en ce moment est dense, il est parfois difficile de saisir tout ce qui se produit dans le monde, et je vous rassure, nous n'en avons pas la prétention non plus, hein, la causerie, hein, c'est-à-dire qu'on passe sûrement à côté de d'autres choses.
Oui.
Simplement, nous voulons ce soir remettre en lumière cette révolution en cours, ces femmes et ces hommes en lutte au péril de leur vie, ces jeunes et moins jeunes qui ont décidé qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, parce que ça, c'est une sacrée décision quand on se dit on est allé trop loin pour qu'on recule, et ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'entraide et beaucoup de solidarité, et voilà, donc voilà, et on tenait nous à leur exprimer toute notre solidarité justement, vraiment et sincèrement, et puis on l'a pas assez dit mais on va le redire, femme, vie, liberté, et je trouve que c'est un des plus beaux slogans du monde. Donc espérons que un jour femme, vie et liberté à l'Iran.
Oui, ce serait formidable. Mais c'est toujours assez incroyable quand on a les retours, les récits de résistance, mais que ce soit en Iran ou ailleurs, mais c'est la capacité d'être humain à aller vraiment au bout de leurs idées. Mmh. Et c'est en même temps magnifique, et t'as plein de respect pour, et en même temps, ouais, effectivement, tu te poses aussi la question de qu'est-ce que je ferais, quoi. Mmh. Est-ce que je serais capable d'en faire autant? Et qu'en même temps, on aura peut-être la question le jour où ça devait nous arriver, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui se dépassent devant ce genre d'épreuve.
Il y a ça, et moi je vais renvoyer, alors c'est un peu vieux, mais je renverrai aux mémoires de Nelson Mandela, parce qu'elles sont très bien écrites, et surtout qu'il en a parlé. En fait, lui, Nelson Mandela, il explique que quand il commence à militer, il se pose pas du tout la question, il milite contre l'apartheid en Afrique du Sud, il se pose pas du tout la question des conséquences. Ouais. C'est-à-dire, il milite, ouais, puis un jour il est arrêté, puis il est isolé, puis il est mis en prison, en isolement total, donc le but est de le rendre fou, hein, quand même, hein. On va se rappeler quand même que c'est ça l'idée de l'isolement total, et en fait il le dit dans son livre, il dit en fait c'est là qu'il se dit que la seule chose à laquelle il peut se raccrocher, c'est son idéal, et c'est tout ce qui lui reste à ce moment là et qu'il dit, il n'y a pas de je trouve ça très beau, il le dit, il n'y a pas de fierté à le faire, parce que c'est pas le but, mais c'est son seul mode de survie à ce moment-là, face à l'adversité, c'est de se raccrocher à son idéal. Et comme il le dit dans son livre, il dit, l'idéal, c'est quand même ce pour quoi on s'est battu, il serait dommage de l'abandonner au moment où il nous est le plus précieux. Mmh. Et c'est peut-être ça qu'on ne sait pas comment on réagirait, parce que heureusement pour nous, peut-être, on n'est pas confronté tous les jours à cette... d'ailleurs, tant mieux pour nous. On n'est pas confronté à ce besoin de se raccrocher à cet idéal au point qu'il devienne un outil de survie. Mais d'un autre côté, si ça devenait à arriver, on verra bien ce qui nous arriverait et comment on réagirait. Mais en tout cas, il y a des tas de livres d'exemples. Il y a aussi les résistants pendant la guerre qui ont été arrêtés. Il y a des choses comme ça. Il faut lire ces récits-là parce que, ouais, justement, ils nous ramènent un petit peu. Et puis, les militants iraniens qui témoignent. Et puis, les militants soudanais. Et puis, des tous ceux qui et militantes d'ailleurs qui écrivent et voilà il faut lire parce que ces témoignages là en fait nous rappellent que l'humanité elle se trouve parfois aussi dans notre capacité à ne pas abandonner notre vision positive du monde même quand le monde nous renvoie l'image qu'il faudrait l'abandonner. Et c'est valable aussi je pense quand on regarde les conflits actuels, quand on regarde ce qui se passe, quand on commence à perdre notre humanité, hein, j'en avais parlé, j'avais fait tout un sujet dessus il y a 2 semaines, je crois. Et quand on commence en fait à franchir ça, c'est là qu'on finit par abandonner ce qui est censé nous animer. Et le problème, c'est ça, c'est de garder vivant. Alors, ça veut pas dire que des fois on n'a pas des baisses de morale ou machin, mais de garder vivant cet idéal-là. Et ouais, ces gens, moi, je les trouve admirables parce qu'ils nous renvoient des. Ils nous renvoient à la gueule que ils y arrivent. Alors qu'il faudrait peut-être que nous, quand on va mieux, on n'abandonne pas en cours de route. Voilà, c'est peut-être ça l'idée aussi.
Effectivement. On passe à la ZIC.
Allez, c'est parti.
Allez.
Mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines. Mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir nettoie les sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir nettoie les sardines. Et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson il faut bien s'y faire. Il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir. Elles chantent en chœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir. À son tout en cœur, il faut bien tenir.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire. Et bien trop souvent, on vit dans la misère.
Malgré leur travail, de salaire et bien trop souvent vit dans la misère.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent. À plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez le bruit leurs sabots. Écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots. C'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots. Écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots. C'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge on est solidaire. Et de leur victoire les fameuses sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaire. Et de leur victoire
écoutez le bruit leurs sabots. Écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots. C'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots. Écoutez gronder leur colère. Écoutez
comme avant.
Abandonné depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 et sur radiocanu.org. Et après l'idée d'une révolution pour le droit des femmes, on s'est dit, tiens, si on se rappelait des peines sardines. Et les peines sardines, ce qui veut dire tête de sardine, c'est comme ça qu'on appelait les habitants de Douarnenez. Parce que dans les années 1900 à quasiment 2000, ils faisaient la principale activité, c'était la sardinerie, c'est-à-dire mettre les sardines en boîte. Et un jour, les sardinières, elles en ont eu marre en 1924 de travailler 18 heures par jour dès l'âge de 10 ans. À 10 ans, elles travaillent que 16 heures, parce qu'elles ont le droit à 2 heures de repos de plus. Hein. Et surtout, elles en avaient marre de ne pas avoir de quoi se soigner. Et elles ont fait 6 semaines de grève. Et à tel point qu'en 1924, la presse de droite disait que Douarnenez était devenu le soviet des sardinières. Vous voyez, c'est comme quoi, on voit les grands titres quand on en a peur de ces gens qui se battent pour leurs droits.
L'ennemi intérieur, on disait.
L'ennemi intérieur, tout ça, tout ça. Et elles ont gagné. Au bout de 6 semaines, elles ont gagné quelque chose qui aujourd'hui, nous fait du bien. C'est la journée de 8 heures. Et oui, c'est de là que part l'une des premières fois où on gagne la journée de 8 heures, payée 18 à l'époque, vous voyez, parce que pas de baisse de salaire. Ouais. Et le fait que l'on n'embauche pas les enfants avant l'âge de 16 ans. Et oui, vous voyez comme quoi. Et c'était que des femmes, quasiment, les peines sardines. Et même à l'époque, les leaders syndicaux disaient, mais comment des femmes peuvent gagner? Oh là là, il faudrait qu'un homme soit à leur tête. Bah, leur ont montré que les têtes de sardines, elles avaient la tête dure. Voilà. Donc j'avais envie de reparler de ça parce que je trouve qu'on oublie aussi l'histoire ouvrière et l'histoire des ouvrières trop souvent. Et donc c'est l'occasion d'en reparler.
Mais tu fais bien.
Et toi, Jean-Yves, t'avais envie de parler d'un coup de gueule parce que t'en as un peu marre que les gens parlent de choix.
Ouais, bah merci. Alors ce soir, ouais, effectivement, un petit coup de gueule ou une réflexion que j'avais envie de partager avec vous. Vous ferez votre choix après entre coup de gueule ou réflexion ou voilà, ou autre chose d'ailleurs. Alors j'entends souvent, hein, effectivement, lorsqu'on évoque les luttes LGBTI, donc lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, d'autres diront queer, etc. Mais voilà, tout ce qui n'est pas, on va dire, hétéro-strict. Ou simplement, quand on évoque ou simplement effectivement la vie de personnes LGBTI, hein, des personnes, on entend souvent des personnes donc dire, parler, évoquer, utiliser le mot de choix. Hein, comme si on choisissait nos attirances, nos sexualités, nos amours, nos identités de genre. Évidemment, rien que l'utilisation de ce mot indique quand même à coup sûr que la personne est hétéro, cisgenre, et n'a donc pas dû beaucoup penser, voire pas du tout penser, hein, sa position, son attirance, son désir, sa sexualité, son genre. Et je pourrais même dire qu'il n'a pas été obligé d'interroger tout cela, parce que dans la norme, on va dire, globale. Et j'ai bien dit, hein, penser, et non pas choisir. Hein, penser. Alors l'utilisation de ce mot choix n'est pas que du fait de nos ennemis attitrés, hein, au choix, les Zemmour, les Boutins, confrères et consoeurs, eux, elles, à vrai dire, rien d'étonnant, hein, le simplisme, le binarisme font partie de leur bagage, tout au service de leur haine. Et on sait quand même, hein, que les LGBTI font partie de leur cible, ne nous mentons pas. Bref, on n'attend rien d'intelligent venant de la part de ces personnes et de ce camp politique. Ou alors, c'est qu'il faut vous réveiller, quoi. Mais malheureusement, parfois, ce mot « choix » est utilisé par des personnes qui ne font preuve ni de haine, ni de malveillance. Ça peut être des amis, de la famille, des compagnons, compagnonnes politiques ou des connaissances. Et ça peut aller, hein, d'une famille acceptante, ce que j'entends par là, hein, des personnes qui, ou d'amis ou de connaissances, j'entends par là, hein, des personnes qui n'ont pas rejeté leur fils, neveu, frère, sœur, fille, amis, amis eux, etc. Et qui, pour signifier cela, vont dire, par exemple, on t'aime comme tu es, on accepte ton ou tes choix. Mais de quel choix parle-t-on, hein, de porter des chaussettes bleues le matin en s'habillant? Je sais pas. Ce mot choix, hein, peut aussi sortir de la bouche de militants, militantes, politiques aguerris. Allez, même des anards, hein, plus rebelles des rebelles, ceux qui ont tout déconstruit et connaissent les rapports de pouvoir. Souvent, c'est sûrement parce qu'ils sont un petit peu agacés par le fait qu'on parle de nos amours, de nos sexualités, non hétéro-strictes. Bref, ils sont un petit peu agacés qu'on laisse pas tout cela dans un placard. Finalement, y a plein de gens qui veulent qu'on reste dans le placard, hein, et c'est pas que nos ennemis politiques. En tout cas, a priori.
Mais on étouffe un peu dans le placard, on est désolé.
C'est un
peu
ça, ouais. C'est un petit peu trop restreint. Alors, ceux-là, celles-là, hein, vont nous dire qu'ils n'en ont que faire, hein, de nos intimités, de nos choix personnels. Mais de quel choix parle-t-on? De quelle intimité parle-t-il? Celui de choisir de porter, tiens, une casquette ou un chapeau en s'habillant le matin aussi? Je crois pas. Alors, je pense que si vous n'êtes pas hétérostrict, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Vous voyez un peu le genre de phrase que j'évoque, que vous avez certainement déjà entendu, et qui ne viennent pas, comme je le dis, encore d'ennemis politiques, clairement. Enfin, voilà, quoi. Allez. Je suis un petit peu mauvais. Même si vous êtes hétéro, et que justement vous vous êtes interrogé sur tout cela, vous comprenez certainement ce que je veux dire. Parce que je ne vais pas non plus faire un grand ensemble des hétéros, parce que ce serait complètement idiot. Donc voilà. Alors je le dis, je le répète encore et encore, et tant qu'il le faudra, même si ça peut sembler basique, hein, pour certains et certaines, non, on ne choisit pas sa sexualité. On ne choisit pas son identité de genre. Qui, vraiment, hein, je vous pose la question très sérieusement, qui serait assez inconscient pour choisir d'avoir à faire face à toute la haine qu'on peut croiser, qu'on peut voir, qu'on peut lire, qu'on peut entendre lorsqu'on est LGBTI? Pardon. Qui serait assez inconscient de risquer d'être exclu, moqué, voire battu, voire assassiné par simple choix? En se disant, bah tiens, moi j'ai envie d'affronter toute cette haine. Ben non, en fait, c'est pas un choix. Alors non, on ne choisit pas son désir, on ne choisit pas son genre, pas plus qu'on choisit d'avoir l'épiderme blanc, noir ou toutes les autres nuances. Alors quelques mots, hein, à celles et ceux qui peuvent évoquer le fait de se foutre de l'intimité que serait la sexualité, le désir ou l'identité de genre. Genre, ça n'a pas d'importance, quoi. Tu vois, je veux dire, on n'est pas ennemis, c'est juste... je m'en fiche, quoi. Bah, l'intime est aussi politique. C'est, enfin, moi qui pensais que c'était une base, ben, faut croire que c'est toujours pas intégré dans le cerveau de pas mal de personnes. Donc non, l'intime c'est aussi là où se passent parfois les choses les plus dégueulasses, hein, genre les agressions sexuelles, les violences physiques et ou sexuelles, les exclusions, etc., etc. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Je pense que quand même ça, vous en avez conscience. Alors vraiment, c'est pas politique l'intime? Vraiment pas? Vraiment, on devrait fermer les yeux et fermer nos gueules? Bah décidément, si c'est le cas, c'est que vous avez vraiment, décidément, toujours rien compris. Mais alors vraiment, rien compris. En soit, ouais, j'aimerais vraiment, hein, que la sexualité, le désir, l'identité de genre, bah, ne soient pas des sujets à débat. Mais pour cela, en fait, il faudrait déjà détruire les normes, en fait. Parce qu'on est toujours dans cette notion de normes et ce qui est en dehors des normes. Alors pour cela, hein, il ne faudrait pas, hein, que ces sujets soient instrumentalisés par les assoiffés de pouvoir, les assoiffés de haine, les assoiffés de division, de hiérarchisation des humains et des humaines, selon leur genre, leur désir, leur sexualité, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et je ne suis pas naïf au point de penser que cela ne sera plus des sujets politiques avant de nombreuses années et donc un paquet de générations. J'aimerais tellement que ce soit demain. Alors ouais, vous savez, peut-être que je suis pas la personne, hein, qui utilise au mieux les mots. Pour autant, je pense quand même qu'il est important d'interroger les mots qu'on peut utiliser. Même si là aussi, je suis tout à fait conscient que les mots ne changent pas à eux seuls une société. C'est... non.
Ça y aide quand même.
Ça y aide.
Mais ça ne change pas la société.
Mais ça ne suffit pas.
Ah ouais, d'accord.
C'est pas juste un... ou alors là aussi, ce serait formidable. Je sais qu'utiliser les bons mots, hein, ne feront pas d'un Zemmour un individu d'effet de haine, de bêtises et autres. Et à vrai dire, je m'en fous complètement, hein, de ce mec comme de nos ennemis. Enfin, je me fous pas de leurs idées, de leur haine, de leurs projets, mais je me fous de leur individualité, vraiment. Si un jour il évolue, tant mieux pour lui, mais... je m'en fous. Et je crois que faut s'en foutre, vraiment. Parce que si on devait se soucier encore de nos ennemis, enfin vraiment, là, on deviendrait un peu jésuite quand même. Alors par contre, lorsque l'on parle d'amis, de la famille, de compagnons, compagnons de militance, de connaissances, eh ben, il en est tout autre chose. Alors amis, famille, compagnons, compagnonnes, connaissances, interrogez vos mots, interrogez votre vocabulaire, s'il vous plaît. Parce que le vocabulaire, il est quand même aussi parfois, comment dire, la face visible de ce qu'il y a dans les cerveaux. Je veux dire,
ah, ça, tout à fait,
ça ne sort pas non plus par hasard, cette notion de choix. C'est qu'on n'a pas compris le cœur du truc, quoi. C'est, parce que il est quand même parfois fatigant, voire décevant, voire décourageant, que vous, qui êtes proche de personnes LGBTI, ou qui êtes fortement porté par la chose politique, par le combat politique, etc., bah, de constater que vous avez toujours rien compris. Que vous pensez toujours qu'on a fait le choix de risquer tout ce que j'ai pu exprimer précédemment. Fatigant, que vous pensiez qu'on avait choisi de calculer quasiment toutes nos attitudes dans la rue, par exemple, pour ne pas risquer une mauvaise rencontre, pour ne pas risquer de se faire éclater la gueule, pour un truc qu'on n'a pas choisi. Alors, si on ne choisit pas nos désirs, nos sexualités, nos identités de genre, on choisit par contre nos mots. Alors, je vous invite, amis, copines, collègues, etc., à choisir les bons mots. Voilà. C'était juste une petite réflexion, parce que je crois que je suis un peu fatigué des fois.
Ouais, ça sent.
Mais oui, mais
il y a de quoi, je suis d'accord avec toi.
C'est autant, encore une fois, que ça vienne de nos ennemis politiques ou de gens qui ont... Enfin, on s'en fout.
Mais je comprends ta lassitude, parce qu'elle est, symptomatique de... Enfin, il y a un terme féministe qui est le backlash, c'est-à-dire le retour de bâton. Et on sent que quand un sujet est un peu sur la table, comme ça a été le cas au moment du mariage pour tous, on a eu des compagnons de lutte qui étaient là et qui disaient « Ouais, mais moi, tu sais, je suis à tes côtés, machin et tout. » Et même quand ils reviennent quelques années après en disant « Non, mais tu sais, je respecte ton choix de vie. »
Voilà, c'est ça.
Oh là là, t'as envie de leur dire « Écoute, je crois que t'as rien pané, quoi. » Et c'est fatigant parce qu'on sait, comme tu dis, que ça veut dire que quelque part, dans leur tête, il y a une forme de tolérance, mais pas d'acceptation. Et c'est pas la même chose, la tolérance et l'acceptation. Tolérer quelque chose, c'est le mettre de côté et dire bon, bah, ça, voilà. L'accepter, ça veut dire c'est normal. Vous voyez,
c'est ça la
différence entre les deux. Et on sent que même dans nos milieux, il y a une tolérance, je dirais pas le contraire, mais que l'acceptation, elle est pas là, quoi. Ou elle est pas majoritaire encore. Et que malheureusement, comme tu dis, c'est par ces petites erreurs, je sais pas comment dire, qu'on se dit merde quand même, quoi. C'est fatigant, mais on le retrouve sur d'autres choses, et des fois c'est fait sans aucune méchanceté, mais c'est comme quand dans les milieux de gauche ou anar, il y a des gens qui vont se lever à la tribune et dire oui, mais la théorie du genre c'est pas grave, mais sauf que la théorie du genre ça n'existe pas, c'est une invention de l'extrême droite, et ils reprennent un vocable qui est une invention de l'extrême droite américaine au départ, et qui s'est diffusé chez les réacs partout dans le monde, et qui n'existe pas. Et on a beau essayer de leur dire, mais ça n'existe pas ce dont tu parles là, en fait, maintenant. Et ben, ils vous disent, oh bah quand même, tu nous fais chier, les mots, machin. Ben ouais, mais sauf qu'en fait, quand tu pars du principe que il y a des études sur le genre, il n'y a pas de théorie du genre, c'est pas la même chose, ça veut pas dire pareil, ça n'a pas les mêmes incidences dans les mots. Et en fait, et ben voilà, on se dit, bon bah, faut tout reprendre, quoi. Et honnêtement, à une époque de ma vie, je vais être très transparent, je comprenais pas les gens qui disaient j'en ai marre de faire de l'éducation. Voilà, je les comprenais pas. Parce que je me disais, bah quand même, c'est aussi notre rôle à un moment donné. Ben maintenant, je commence à comprendre. C'est-à-dire qu'au bout à 47 ans bientôt, et ben j'avoue qu'il y a des moments où, comme toi, je fatigue parce que je commence à me dire, mais ça fait 10 fois que je te le dis. Tu vois, enfin, et on se dit, mais voilà, quoi. Enfin, faut que ça rentre.
Ouais, et puis après, t'as aussi avec. Là, ça va être plus au niveau de la militance, etc. C'est qu'on va avoir une obsession, c'est-à-dire que parler des luttes LGBTI, alors vous mettez encore une fois le mot que vous voulez,
LGBTQA+, 2A+,
vous avez compris.
Mettez toutes les lettres que vous voulez.
Mais
en gros, parlez des gens qui ne sont pas hétérosexuels ou qui ne sont pas dans le sexe biologique attribué.
Ils ne sont pas
dans le genre, dans le bon genre, quoi.
Et en fait, souvent, ça va être ça efface la lutte des classes. Et en fait, tu dis, mais bordel, en fait, je pense qu'on peut articuler plein de choses, là encore une fois, fondamentalement, oui, la lutte des classes, elle existe. Pour moi, en tout cas, ce rapport de classe, etc., c'est une réalité.
Oui, ça existe.
Mais sauf que le rapport, en fait, entre hétéros et les autres, il existe aussi, en fait.
Et il est violent.
Mais oui, en fait.
Beaucoup plus que vous l'imaginez. Mais il y a une phrase qui me fait rire aussi. Parce que ça illustre ce que tu dis dans la truc. J'adore quand on me dit, ah, mais c'est génial, vous avez des bars à vous.
Oui.
Alors non, chérie, c'est pas génial, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est juste qu'en fait, si on arrivait dans vos bars et qu'on commençait à se galocher au milieu de vos bars hétéro, on est quasiment sûr qu'on se fera taper sur la gueule. Donc désolé, hein, on se crée des lieux à nous, ouais, comme vous dites. En fait, c'est pas vraiment, c'est des refuges.
Hein, oui, c'est ça, c'est pas du tout.
C'est pas génial,
une,
en fait.
C'est pas une volonté de se séparer du reste de la société, non,
ben
c'est
oui,
pour
c'est
se
ça,
protéger
quoi.
Du reste de la société.
Et rien que ça, ils voient pas le rapport de domination que ça inclut.
Mais en fait, c'est ça. Donc, voilà. c'est ça qui me fatigue, je pense, le plus encore quand ça vient de chez les anards, c'est-à-dire que le rapport de pouvoir, croire qu'il n'est que dans l'économique, ben je pense que c'est se planter complètement.
Ah non,
je pense que là
ouais.
C'est juste du communisme mal digéré et que ben vous êtes peut-être plus rouge que noir et c'est pas grave, mais voilà. Mais qu'en fait pour moi le rapport, enfin, mais même quand on peut parler de domination par exemple, enfin d'oppression par exemple adulte sur enfant. Bah tu peux abattre le capitalisme, en fait ça changera rien. Je veux dire, tu peux abattre le capitalisme, le système économique qui nous oppresse, bah ça ne changera rien si le rapport entre les hétéros, la norme on va dire, et les autres ne change pas, en fait. On restera dans un même truc. Donc c'est pas juste une histoire économique, et que je pense vraiment que on est capable d'articuler plusieurs choses en même temps. Et que, en fait, oui, je ne sépare pas non plus le rapport de classe avec le rapport de genre, de sexualité, etc. Ce sont plein d'oppressions, mais qui peuvent s'additionner. Et qui, c'est pas parce que t'en effaces une que ça enlève toutes les autres, en fait. Hein.
Et puis, rassurez-vous, vous qui adorez la lutte des classes, nous autres qui ne sommes pas strictement hétérosexuels, croyez bien qu'on la vit en pleine gueule. Parce que généralement, on a les emplois moins bien payés que les hétérosexuels, surtout les femmes lesbiennes,
ouais,
et encore plus les personnes transgenres
trans, ouais.
Ou trans. Ouais, vous inquiétez pas, on est au courant. Hein. Non, mais c'est ça qui est drôle. C'est que des fois, je te parle avec des gens, oui, mais tu parles de ça, mais tu parles pas de la lutte des classes. Alors t'inquiète, celle-là, on l'a bien intégrée, on l'a pris dans la gueule. Hein. Donc dès le départ, c'est fait un coming out. Une personne sur deux concernée, soit par une transidentité, soit par une sexualité non hétérosexuelle, ne fait pas de coming out au travail parce qu'elle sait
ouais.
que ça va lui coûter. Donc ils ont, vous voyez, on sait, merci, on est au courant, voilà, on maîtrise, pas de problème. Par contre, moi j'aimerais un jour, ami. Révolutionnaire, hétérosexuel, souvent blanc et de plus de 50 ans, qui me tenait ce discours, que tu te mettes à notre place. Juste, tu essayes d'imaginer ce que ça fait, tu vois, de te dire, alors bon, on me regarde de travers dans le métro parce que je discute avec mon copain un peu trop près ou avec ma copine quand on est lesbienne, ou on essaye de me dévisager du pied à la tête pour savoir si mon passing est suffisamment bien fait pour savoir si on est un homme ou une femme. Et puis alors pour les non-binaires, alors là, cette fois-ci, on vous traite de monstre, vous voyez. Essayez d'imaginer ce que ça fait. Tous les jours, c'est-à-dire pas une fois de temps en temps, tous les jours, dès votre réveil, vous sortez dans la rue et ça commence. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais
oui, ça ne prendra fin que quand tu rentreras dans ton cocon.
Voilà.
Et
après, vous allez être les mêmes à aller dire oui, mais vous restez entre vous, oui, mais machin. Ben en fait, ouais, peut-être aussi parce qu'à un moment donné, on en a marre aussi d'entendre que c'est un choix.
Oui.
Ça part de là. Alors, bah, t'as raison, hein. Je pense que t'as raison, c'est que ça part de là, c'est la fatigue au bout d'un moment. Et voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec ton coup de gueule.
Donc, n'oubliez pas, on ne choisit pas. On existe juste.
Mais on vous aime, hein, les alliés, quand même.
Oui,
parce qu'il y en a quelques-uns.
Mais oui, non, mais clairement, on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Enfin. Eh ben, je vous propose qu'on passe à la ZIC et on se retrouve tout de suite après ça.
Vivre une vie d'amour et d'eau tiède, de limer ta colère, de lisser tes envies, d'assurer tes arrières, de dresser tes amis. On te dira de suivre à la lettre, vivre dans l'hypocritement correct, laisser leur bonne conscience te faire la courte échelle, toujours stagner dans la censure émotionnelle. Quand ils vont bien dormir,
quand tu vas bien dormir,
dire que c'est nous l'avenir,
nous la cancer culture,
croire en tout sauf en toi,
tu craches dans le miroir,
vu leur toute première fois,
toi t'es toute première fois, regardons.
Rougeur d'or,
oui mais à contresens,
aux obsèques de ce siècle,
tout le monde posera une tierce,
RIP reste en pièce, QLF que les faibles. Retiens pas les règles, retiens pas tes rêves, vis jusqu'au danger, vis jusqu'à changer. On perd trop de temps, on perd trop de gens, on perd trop d'années. Piège dans
Je vois qu'ils disent tous leurs peurs et leurs doutes. Faut mettre une distance, le temps qui s'échouffe. J'observe des histoires, des mains, des victoires. À ceux qui jugent tout, vous brisez l'espoir. Je suis ravie d'entendre qu'on meurt tous un jour. Ça crée la distance qui construit l'amour. J'emmerde la prestance, je cherche le fond. La réelle question c'est qu'est-ce qu'on fout.
Tu seras jugé trop mal.
Tu sors du parcours
par tous ces gens qui baillent.
En faisant l'amour,
on élève les garçons
dans un sale égo trip.
Et n'oublie pas que les filles
sont parfois des sales types.
Le milieu de la musique, tapinage artistique. Mais je persiste à croire
qu'on peut être ce changement.
On va baiser la loi et faire de beaux enfants. Retiens pas les rêves, retiens pas tes rêves. Vis jusqu'au danger, vis jusqu'à changer. On perd trop de temps, on perd trop de gens, on perd trop d'années. Qui sera bien comme il faut. On te dira d'être seul, on te dira d'être fort, mais jamais de toi-même. Car c'est ça qui fait peur. On te dira de l'ouvrir seulement si t'as rien à dire. Si tu veux que l'on t'entende, dis-nous à qui tu ressembles. Dans le même piège. Retiens pas les règles, retiens pas tes rêves. Vis jusqu'au danger, vis jusqu'à changer. On perd trop de temps, on perd trop de gens, on perd trop d'années à se demander sur quel piège danser.
Jusqu'à la dernière note. Eh bien, c'est toujours la causerie sur Radio Canu et toujours presque à l'heure.
Non, donc, ça va jusque-là.
Ouais, on est là. On est large. Alors,
non,
on vient.
Mais... on presque à l'heure.
On vient de s'écouter un titre qui est apparu dernièrement parce que je crois que c'était pas un duo au départ.
Et il me semble, ouais.
Ouais, et donc c'est le titre Piège de Martin Luminet et Bro. B-R-O umlaut.
Tréma.
Tréma. Et je rappelle, tiens, j'en profite pour rappeler que Martin Luminet est en concert le 1er décembre à la MJC Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin.
Ouais, alors, à la salle Charlie Chaplin, je crois que c'est plus.
J'ai dit quoi ?
MJC.
Ah non, c'est pas salle... une MJC, non, mais oui, salle, en plus, t'as raison, c'est un centre culturel.
Ouais, ouais, oui, oui, c'est, oui. Très, c'est très grand. Mais venez parce que c'est bien.
C'est moi qui raconte des conneries. Donc oui, venez, viendez, c'est très bien. Et puis bah, si tu viens, n'hésite pas à le faire savoir, on pourra peut-être se rencontrer et boire un petit coup. Voilà. Et ben, allez, on passe au bref.
Oui. Ah, c'est toi qui commence.
Ouais, c'est moi qui commence, c'est tout à fait ça. Alors, c'est mardi 7 novembre à l'Amicale du Futur, c'est dans le 7e arrondissement. Il y a une soirée de présentation du livre Politiser l'enfance. En fait, alors c'est Politiser l'enfance, c'est une anthologie de textes inédits, traduits ou réédités, écrits par des artistes, des philosophes, des sociologues, des journalistes, des critiques d'art, etc. Ces textes sont réunis par Vincent Romani, docteur en esthétique et commissaire d'exposition. Ils abordent la question des rapports entre enfance et politique, non pas depuis un point de vue unique, mais selon différentes perspectives, philosophiques, sociologiques, historiques, politiques, etc. et qui éventuellement se croisent. Donc c'est à l'Amicale du Futur, mardi 7 novembre. L'ouverture des portes, c'est à 18h et le début de la discussion est à 19h. Il y a de la petite restauration sur place et aussi un atelier pour les enfants. C'est donc au 31 rue Sébastien Griff, mardi 7 novembre.
Et là, moi, je vais te faire de la concurrence parce que il y a, bah oui, toujours le 7 novembre. Même si je pense que je préférerais voir l'enfance que ce que je vais annoncer. Pardon de le dire, mais c'est vrai. Il y a la projection du documentaire Vert de rage hein, sur les polluants éternels de, du sud au sud de Lyon. Alors c'est aussi très intéressant. Hein, je plaisantais à moitié en disant voilà. C'est à l'Alternative Bar MDA dans le Lyon 1er. C'est la présentation donc du documentaire Vert de rage qui révèle quand même le scandale écologique autour de l'usine Arkema à Pierre-Bénite. Au ouais. sud de Lyon, qui a rejeté en fait dans le Rhône des polluants éternels, c'est-à-dire des produits chimiques qui sont des polluants qui ont des impacts sur le, la santé et qui ne se biodégradabilisent très mal ou très longtemps après qu'ils aient été lancés. Et quand on dit très longtemps, c'est des centaines d'années. Hein. Donc voilà.
Super.
Donc c'est le 7 novembre à 19h30, 126 montée de la Grande Côte dans le premier. L'entrée est à prix libre sans réservation et la projection débute à 20h. Voilà.
Ok, et on passe au deuxième rendez-vous, enfin non, troisième rendez-vous, c'est mercredi 8 novembre à 19h à la Bourse du Travail de Lyon. C'est le mouvement, le soulèvement pardon, de la Terre de Lyon et ses environs qui propose une conférence sur le projet d'implantation d'un EPR2 dans la centrale du Bugey.
Bah ouais, ça nous manquait.
Alors elle sera animée par un membre de l'association Sortir du Nucléaire Bugey, donc c'est mercredi 8 novembre à 19h à la Bourse du Travail de Lyon.
Et donc moi je vais vous parler d'une conférence gesticulée que vous allez pouvoir voir à plusieurs endroits, donc je pense qu'on vous en redonnera d'autres dates, mais je vais vous donner les deux premières les plus proches. Donc ça s'appelle « J'aurais dû m'appeler Aïcha ». C'est une conférence gesticulée sur l'histoire coloniale, la guerre d'Algérie, les politiques françaises d'intégration, la différence de traitement médiatique et la mémoire. Alors autant vous dire que c'est dense, mais que c'est très intéressant. Je vous lis juste le début. « Un mois avant ma naissance, la mère de mon père décède. La tradition veut que la première fille née après ce décès hérite du prénom de la défunte. Ma grand-mère s'appelait Aïcha, elle était algérienne, pourtant je m'appelle Nadège. » Voilà, donc c'est très intéressant. Et donc vous pourrez la voir le 8 novembre à 19h à l'atelier Léonard de Vinci à Vaux-en-Velin, ou le 10 novembre à 19h à la médiathèque de Mézieux dans le 69. Voilà, alors j'ai pas les adresses exactes. Si Léonard de Vinci, c'est 7 avenue Maurice Thorez à Vaux-en-Velin, et la médiathèque municipale de Mézieux, c'est 27 rue Louis Saulnier à Mézieux. Voilà, et donc il y aura d'autres dates et on les réannoncera, mais c'est un peu plus tard, fin novembre et début janvier. Donc voilà.
Yes. Eh ben très bien, je crois qu'on a tout dit, il est l'heure de se quitter.
Ah non, il y avait un dernier truc. Je l'ai perdu. Oui, c'est la soirée d'ouverture, oui, pardon, j'ai oublié de te le dire, mais c'est la soirée d'ouverture des cours d'arabe à l'illégalité, avec le resto Najak. Voilà, et c'est à partir de 19h30 vendredi 10 novembre, que vous soyez apprenant ou non, hein, venez nombreux célébrer la langue arabe et vous régaler avec le resto Najak. Et c'est donc voilà, et sinon c'est aussi pour vous inscrire à des cours d'arabe débutants. Il y en aura un de 17h30 à 19h ce vendredi, et ensuite a priori tous les vendredis, ce qui permettra comme ça, si vous le souhaitez, d'apprendre cette très belle langue qu'est l'arabe.
Eh bien très bien. Et ben là c'est vraiment l'heure de se quitter. Donc on va se quitter en musique, un titre choisi par Clara pour qui on a de grosses pensées.
On fait des bisous. Bah ouais.
En espérant qu'elle sera là la semaine prochaine. Mais
ça voudrait dire qu'elle va mieux.
C'est exactement voilà. Ça. Et ben, on se quitte en musique, c'est toi qui l'annonce ou
ouais,
c'est
moi? Alors c'est Two Steps from Hell, le groupe, c'est Last One Standing, et c'est un titre en featuring avec l'immense Tina Guo et son violoncelle de folie, et la non moins immense Yu Yanga Bold et sa voix à vous faire hérisser le poil rien qu'en vous lisant l'annuaire. Voilà.
Malheureusement, c'est pas ce qu'elle fait.
Bah, c'est surtout que la lumière n'existe plus. Mais bon, bref.
Repère de vieux, quoi. Rêve de vieux. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain, 22h, 23h, sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et bon courage.
Du courage.
Bisous.
Et des bisous.
Ciao. Salut.